Bonjour Aubière, bonjour, 15h TU, 16h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
À la une de ce journal, le choc en Allemagne à quelques jours des fêtes de fin d'année et à l'approche des élections. Un marché de Noël a été pris pour cible par un homme au volant d'une voiture faisant 5 morts et 200 blessés. Le profil du tueur interroge beaucoup en Allemagne. Correspondance de Pascal Thibault à suivre. Une semaine après le passage du cyclone Chido, Mayotte attend avec impatience l'aide promise. Le président Macron a promis le raccordement dès aujourd'hui des foyers à l'eau au moins de façon partielle. Le réacteur nucléaire le plus puissant de France alimente maintenant le réseau électrique. C'est l'EPR de Flamanville, enfin en service après 17 ans de chantier. Olaf Scholz promet d'agir contre ceux qui veulent semer la haine. Déclaration du chancelier allemand ce matin à Magdebourg. 5 morts et 200 blessés, certains grièvement. Donc, dernier bilan de l'attaque à la voiture d'hier soir sur le marché de Noël de Magdebourg. Parmi les derniers développements, une déclaration de la ministre allemande de l'Intérieur. L'auteur présumé, un médecin d'origine saoudienne, est selon elle islamophobe. Cet homme a pu être arrêté. Si sa motivation reste très floue, on n'en sait plus. Pascal Thibault sur son profil.
L'homme âgé de 50 ans est originaire d'Arabie Saoudite et travaillait dans la région de Magdebourg, arrivé en 2006 pour ses études. Il avait une formation de médecin psychiatre et avait obtenu le statut de réfugié en 2016 en raison visiblement de son hostilité au régime saoudien. Dans une interview à un quotidien allemand, il se présentait en 2019 comme un critique agressif de l'islam. Cet activiste connu dans la communauté saoudienne aidait grâce à un site des personnes persécutées dans son pays à obtenir l'asile politique, notamment en Allemagne. Son hostilité à sa religion d'origine semble être devenue de plus en plus radicale. Il avait sur le net dénoncé le danger d'une islamisation de l'Allemagne. Taleb A se considérait comme victime de persécution dans son pays d'adoption et dénonçait la police qui aurait refusé de le protéger et même un plan pour chasser les réfugiés saoudiens d'Allemagne. Il avait écrit sur le net que seul le parti d'extrême droite, AFD, pouvait le protéger. Il avait également émis des menaces sur les réseaux sociaux évoquant une possible vengeance et rêvait d'une académie composée d'anciens musulmans pour combattre l'islam en Allemagne. Pascal Thibault, Berlin RFI.
À l'approche des législatives du mois de février en Allemagne, l'extrême droite de l'AFD s'est saisie de l'attaque d'hier soir pour dénoncer l'accueil des étrangers dans le pays. Soutien de l'AFD, le milliardaire américain Elon Musk a lui réclamé la démission du chancelier Olaf Scholz. À propos toujours d'immigration, 4 dirigeants européens se retrouvent aujourd'hui de façon informelle en Finlande. Les chefs de gouvernement finlandais, grecs, suédois et italiens. Côté italien, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, sur la scène européenne, elle compte faire avancer ses idées sur la question migratoire. Le drame avait fait 15 morts dans l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad en Serbie. Plus d'un mois et demi après, la contestation contre la corruption et contre l'impunité continue à travers le pays. Les étudiants bloquent une cinquantaine d'universités. Les lycéens ne sont pas en reste. En hommage aux victimes, lycéens et étudiants interrompent chaque jour la circulation dans de nombreuses villes. Et ils se préparent à une nouvelle manifestation importante demain. Correspondance à Belgrade de Laurent Rouy.
En plein Belgrade, ces étudiants bloquent un carrefour 15 minutes, en silence. La manifestation contre la corruption survient après l'effondrement mortel du auvent de la gare de Novi Sad, alors que la justice semble peu motivée à chercher les responsables. On écoute un étudiant.
Les étudiants demandent que toute la documentation liée à la reconstruction de l'ensemble de la gare qui s'est effondrée sur des personnes soit rendue publique. Nous estimons que les citoyens de Serbie, tout comme nous, les étudiants, avons le droit de savoir qui sont les responsables de cet accident.
Le mouvement anticorruption grandit. Proglas, un groupe d'intellectuels, organise des débats, comme ici à Vrbas, dans le Nord, avec Milojko Arsic, économiste.
La corruption systémique se manifeste de cette manière. Les contrats avec l'État sont attribués à des entreprises dont les propriétaires sont proches du pouvoir en place. Une partie des fonds issus de ces projets obtenus auprès de l'État est utilisée pour financer le parti au pouvoir, mais aussi pour l'enrichissement personnel des membres du gouvernement actuel. Bien sûr, ces propriétaires d'entreprises s'enrichissent également tant qu'ils restent loyaux envers le pouvoir. Le gouvernement évite de lancer des enquêtes contre de telles personnes.
Étudiants et protestataires sont bien décidés à faire entendre leur voix. Ils organisent une grande manifestation dimanche. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Pile 16h05 ici à Paris. Une semaine après le passage d'un cyclone dévastateur, les habitants de Mayotte attendent encore d'être secourus. Ils s'impatientent devant l'arrivée au compte-gouttes de l'aide. En visite sur place cette semaine, Emmanuel Macron a constaté l'immensité des besoins. Il a promis le raccordement des foyers à l'eau dès aujourd'hui, au moins de façon partielle. Mais il a prévenu que pendant des mois, Mayotte ne vivrait pas de façon normale. Le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte a aussi fait des victimes au Mozambique. Dernier bilan dans ce pays d'Afrique australe, 76 morts et près de 62 000 habitations détruites. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans le nord-ouest de la France est maintenant opérationnel après 17 ans de chantier et 12 ans de retard. Le groupe EDF a annoncé aujourd'hui qu'il avait été raccordé au réseau électrique national. Le réacteur atteindra jusqu'à l'été 2025 différents paliers de puissance qui solderont la phase d'essai. EDF salue un événement historique pour la filière nucléaire française. Y aura-t-il de la neige à Noël? Y aura-t-il aussi un nouveau gouvernement? Le Premier ministre François Bayrou veut le croire, en tout cas, à propos du gouvernement. Enfin, autre question, la droite en fera-t-elle partie? Les responsables du parti Les Républicains laissent planer le doute. Hier, ils ont demandé un nouvel échange avec le Premier ministre Victorien Villaume.
Les Républicains vont-ils remonter dans le bateau? C'est l'espoir de François Bayrou qui souhaite en particulier garder le très conservateur Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Dans l'entourage du ministre, on affirme que toutes les conditions sont réunies pour son maintien. Il aurait obtenu, je cite, la garantie de pouvoir continuer son travail contre l'immigration illégale. La ministre sortante de l'Agriculture, Annie Genevard, également étiquetée LR, ne cache pas son intention de poursuivre l'aventure. Et dans les rendez-vous des Républicains, on imagine même de plus en plus une arrivée au gouvernement de Laurent Wauquiez lui-même. Les Républicains réclament à François Bayrou des garanties sur des sujets totems à droite, réduction des dépenses publiques plutôt que hausse d'impôts, plus de sécurité, plus de contrôle aux frontières, moins de normes. Un élu nous assure que les Républicains comptent maintenir la pression sur François Bayrou dans l'attente de son discours de politique générale le mois prochain.
Au procès de l'assassinat de Samuel Paty, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict hier soir. Elle a reconnu coupable et condamné les 8 personnes impliquées dans l'assassinat de l'enseignant. Samuel Paty est mort décapité par un islamiste radical tchétchène en octobre 2020. Les peines les plus lourdes frappent les deux amis de l'assassin. Ils ont été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. En boxe, la revanche des deux meilleurs poids lourds au monde. C'est ce soir à Riyad, la capitale saoudienne. Le Britannique Tyson Fury retrouve Alexander Usyk 7 mois après la victoire de l'Ukrainien. Un combat à 190 millions de dollars pour le vainqueur et l'un des plus importants des dernières années. Il doit permettre de désigner le champion du monde dans 3 des 4 grandes fédérations de boxe. Cédric De Oliveira.
December 21st, Usyk vs Fury 2.
Depuis plusieurs semaines, une bande-annonce façon film d'horreur fait monter la pression avec les deux poids lourds complètement obsédés l'un par l'autre.
Ah, you're awake, Mr. Fury.
Fury voit son bourreau Usyk partout et inversement dans une mise en scène qui fait saliver. Malheureusement, la conférence de presse d'avant-combat, beaucoup moins. D'habitude si fantasque, le Britannique de 36 ans n'a fait que répéter les mêmes mots.
J'ai beaucoup parlé, plaisanté la première fois, comme durant toute ma carrière. Cette fois, je suis sérieux, je vais faire des dégâts, je vais mettre ce gars dans le coffre-fort.
En mai, le Gypsy King, invaincu jusque-là, avait subi la loi d'Alexander Usyk, plus petit de 15 cm, mais qui avait bien failli l'envoyer au tapis. Fury avait été sauvé par les cordes du ring, et l'Ukrainien, désormais champion incontesté, se voit bien encore prendre le dessus.
Don't be afraid, I will not leave you alone. See you on Saturday.
N'aie pas peur, je ne te laisserai pas tout seul sur le ring. Usyk n'a toujours pas l'air impressionné. Il s'est ensuite lancé dans le traditionnel face-à-face, 11 minutes les yeux dans les yeux avec son adversaire. Dernière mise en bouche d'un combat qui s'annonce passionnant.
C'était Cédric De Oliveira en football. On joue ce week-end la 17e journée du championnat d'Italie. En match d'ouverture, l'AC Milan a renoué la victoire en s'opposant à Vérone 1-0. De son côté, l'Inter Milan se déplace cet après-midi à Cagliari. Enfin, un résultat de ski, une fois n'est pas coutume. L'Autrichienne Hütter a remporté son premier Super G de la saison. C'était ce matin à Saint-Moritz en Suisse. Une course surtout marquée par le grand retour à la compétition de la championne américaine Lindsey Vonn, 40 ans, qui a intégré dans cette course le top 20. Très bonne journée sur RFI à suivre tous les cinémas du monde.